Christophe Normier, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir, vraiment.
Alors, comment se porte l'association en ce mois de rentrée?
Eh bien, écoutez, j'espère que le soleil sera au rendez-vous pour cette association. Les efforts que nous faisons nous construisent de plus en plus la mise à distance du projet et je l'espère permettront de débouter et de faire échouer ce projet qui, plus nous avançons dans le temps, plus nous paraît inepte. Inepte parce que c'est une destruction des paysages, ça c'est la beauté de ce Morvan dans son entier, qui je crois est un capital, un patrimoine qui nous appartient à tous, et de l'abîmer, comme ce serait le cas si de telles éoliennes étaient là, ce serait pour nous un drame, et je crois que je peux peser les mots, c'est un vrai drame, ce serait criminel finalement de casser ces paysages, mais surtout, plus nous avançons et plus nous faisons le constat que économiquement, il y a quand même de vraies questions qui doivent se poser, parce qu'il y a tellement d'argent qui est brassé avec cet éolien, il y a tellement d'insistance de la part des industriels, c'est que quelque part, il y a un loup. D'ailleurs, les banques commencent à dire « Ah, écoutez, on est de plus en plus distants et réservés pour financer des projets éoliens parce que ça gagne trop d'argent. » Et le « ça gagne trop d'argent », eh bien, en effet, permet d'imaginer que le château va s'écrouler un jour pour les industriels. Alors, ils en profitent aujourd'hui. Mais plus grave, finalement, c'est que quand on s'approche d'une éolienne, et c'est ça l'objet que je voulais évoquer, c'est quand on s'approche d'une éolienne, la dimension physique d'une éolienne, les aspects mécaniques, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui apporte une réponse utile aux enjeux de l'énergie? C'est la question que nous nous posons actuellement.
Et tout ceci, j'imagine que vous allez en parler durant cette conférence. Hein. C'est le thème de notre entrevue aujourd'hui, cette conférence débat que vous organisez samedi. Alors tout d'abord, pourquoi ce rendez-vous? C'est quoi l'objectif?
Alors l'objectif, c'est que les réflexions que nous menons sur cet enjeu éolien nous ont fait croiser divers ingénieurs spécialisés en physique. Parce que réellement, nous cherchons à comprendre. Est-ce que ce système qui consiste à brasser du vent, à envoyer cette électricité sur un réseau, donc à construire ces éoliennes avec les enjeux de CO2 associés à la construction, puisque je rappelle qu'il y a quelque chose qui est quand même très surprenant dans ces éoliennes, c'est qu'elles hébergent chacune 600 kilos de terres rares. Or, ces terres rares, c'est quelque chose qu'on refuse de produire en France au motif que c'est extrêmement polluant. Et en effet, ça produit du CO2 à tout va. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux de réchauffement de la planète et de CO2 commencent à nous faire tous comprendre qu'il ne s'agit pas de regarder quelque chose au moment de son exploitation, simplement pour apprécier si ça produit ou pas du CO2, mais de regarder tout au long du cycle. Mmh. Est-ce que ça a été très compliqué à le produire? Est-ce qu'à exploiter, c'est très polluant ou pas? Et est-ce qu'à démanteler, est-ce que là aussi, le démantèlement représente une production de CO2 importante? Eh bien, quand on s'approche avec ce regard-là des éoliennes, les modalités de construction de l'outil lui-même, hein, de l'engin éolien, sont horriblement producteurs de CO2. Alors, une chance, ça n'est pas producteur de CO2 en Europe. Ça tombe bien, puisque l'Europe a décidé d'arrêter la production de ces terres rares. C'était trop dégoûtant, trop dégueulasse à faire. Et l'a confié, d'une part, pour 10% à l'Afrique, qui produit ces terres rares, mais surtout 90% qui viennent de Chine avec des conditions de travail qui aujourd'hui sont maintenant à peu près connues de tous, des salaires de misère, une pollution infernale et des risques associés au travail pour ces travailleurs épouvantables. C'est la raison pour laquelle l'Europe a dit nous ne voulons plus exploiter ces terres rares depuis maintenant une dizaine d'années. Donc ces éoliennes hébergent en elles-mêmes énormément de pollution de CO2 pour arriver sur notre terrain. Alors elles sont belles, elles sont blanches, elles paraissent totalement vierges, on brasse du vent, c'est merveilleux, mais la réalité c'est qu'on brasse du vent, c'est merveilleux, donc on a beaucoup pollué avant, pendant l'exploitation on ne pollue pas énormément, c'est certain, mais est-ce que le vent qui est utilisé pour produire une énergie est une énergie qui va nous intéresser? En fait la réponse est non, puisque ces machines ont des taux de rendement énergétique. Alors je suis navré, c'est un petit peu technique, mais finalement on s'intéresse à savoir si transformer de l'air, c'est très facile, de le transformer en électricité. Est-ce que c'est très facile? Est-ce que c'est très facile de transformer du charbon en électricité? Est-ce que c'est très facile de transformer du gaz en électricité? À ces questions-là, nous tentons d'apporter une réponse. Et c'est l'objet de la conférence qu'on organise, qui vise à dire, par ce physicien qui s'appelle Marc Alevi, qui a fait Polytechnique, qui qui est un conférencier connu, qui a travaillé auprès de différents prix Nobel, donc ça signifie que la réflexion scientifique est peu, en tout cas nous concernant, nous sommes bien incapables de la mettre en doute, et je crois qu'elle est sérieuse, en tout cas solide, fait avancer le débat en ce sens qu'il s'approche du principe de l'éolien en disant, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça donne une, est-ce que le coût qu'on met en œuvre pour produire une énergie, est-ce qu'il est rentable par rapport au charbon? Est-ce qu'il est rentable par rapport au pétrole? Est-ce qu'il est rentable par rapport à ceci, cela? Et ça permet de hiérarchiser un tout petit peu le coût de transformation de chacune de ces produits. Alors, évidemment, ce qui coûte le moins cher à produire, c'est l'hydraulique. Je ne parlerai pas du nucléaire pour ne pas entrer dans le débat, mais finalement, le nucléaire a un taux en exploitation qui est extraordinaire. Alors, je ne suis pas ni pro ni anti-nucléaire quand je dis ça, c'est un constat physique qui est donné. Bien sûr, pour produire le nucléaire, il a fallu mettre énormément de systèmes de production en route, très polluants. On a cette problématique du démantèlement et puis cette problématique de sécurité du processus. Mais quand on regarde les modalités de production, il s'avère que le charbon nécessite de mettre énormément d'énergie pour sortir un kilowatt. Le gaz, énormément d'énergie pour sortir un kilowatt. Le fuel, pareil. Et puis l'éolien, de la même façon. C'est-à-dire que finalement, il y a des taux de rendement pour la mise en, après avoir mis en œuvre ces produits, qui sont finalement très mauvais. Donc c'est la question de se dire, il y a une mauvaise réponse, puisque cet outil ne permet pas de produire avec un bilan carbone intéressant, mais est-ce que finalement c'était la bonne question que de s'intéresser à l'éolien? Et là, finalement, cette conférence va débuter en principe par ce premier constat, qui est de dire, a-t-on besoin d'une énergie verte de type éolien? La réponse, elle est non. Puisque en France, nous avons, et c'est une chance ou une malchance, nous avons la quasi-totalité de notre énergie produite pour l'électricité qui est décarbonée entre le nucléaire et l'hydraulique. Nous avons une électricité produite sans carbone. Alors, la vraie réponse, la vraie question, c'est de se dire, mais en effet, il faut réduire notre carbone, mais qui vient de quoi? Du transport et de l'habitat, les chauffages individuels, nos maisons sont des vrais passoires. Alors au lieu de mettre ces 8 milliards qu'on met sur les énergies renouvelables pour produire du solaire ou de l'éolien, qui sont tous les deux très critiquables, je ne sais pas où est la vérité, mais en tout cas qui reçoivent énormément de critiques sur le fond, mettons donc ces 8 milliards d'euros au service de la mise en place dans toutes nos maisons de pompes à chaleur, d'isolation, etc., qui là va faire baisser de façon extraordinaire nos consommations, ou mieux encore, mettons cet argent au service de la recherche. Nos enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ont des têtes sans doute très bien formées et sont parfaitement capables de réfléchir à quelle sera l'énergie de demain. Cette réponse, aujourd'hui, elle est inconnue de qui que ce soit. En fait, tous les pays du monde s'essayent à essayer de trouver l'énergie la moins polluante qui soit. Et alors, on a tenté, c'est ce qui explique que l'éolien est arrivé, on a tenté une voie sur l'éolien. Maintenant, un peu de retour d'expérience nous permettrait de comprendre que ce n'est pas la bonne voie. Et j'en veux pour preuve unique et vraiment forte, c'est les Allemands. Les Allemands qui ont décidé, comme on le sait, d'arrêter le nucléaire et puis qui, depuis une quinzaine d'années, ont déployé à fond cet enjeu éolien. Et le constat qu'ils font est absolument horrible et qui va les amener à prendre une décision forte, qui les a amenés à prendre une décision forte. Le constat, c'est... Puisque nous avons développé à fond l'éolien, en réalité, nous avons été obligés de développer énormément de centrales à charbon. Celles-ci produisent beaucoup de CO2. Et il y a des courbes qui montrent de façon extraordinaire que plus vous développez l'éolien, et en réalité, plus le taux de CO2 s'accroît. Les Allemands ont une quinzaine d'années d'avance sur nous sur ce sujet-là. La réponse qu'ils font face à ce constat, c'est de dire, on prend une décision très claire, nous arrêtons tous les projets éoliens. Alors, on ne les arrête pas tout à fait. On enlève toutes les subventions. Et curieusement, les industriels qui ne reçoivent plus de subventions ont un outil qui ne produit pas une énergie qui soit équilibrée en matière financière. S'ils n'ont plus de subventions, ils ne peuvent plus produire. Eh bien, les Allemands ont fait le choix d'arrêter ces subventions pour qu'on cesse de polluer. Les Espagnols ont fait de même. Les Danois ont fait de même. Et nous, en France, où, comme on le sait souvent, on a des très bonnes idées, qu'on est très long à mettre en œuvre, mais alors quand on les met en œuvre, on cherche à les déployer à fond. Il se trouve que tous les pays européens ont déjà déployé l'éolien offshore, en mer. Eh bien, la France, à grands cris, dit « Ah, voilà, on va développer ça maintenant », mais avec 10 ans de retard sur les autres. Sur l'éolien terrestre, c'est pareil. Tous les pays européens y sont engagés, tous font marche arrière. Eh bien, la France, avec un métro de retard, décide de continuer et d'engager sur le budget 2019. Le gouvernement, hier, présentait le budget au Conseil des ministres. Le budget pour les énergies renouvelables est de 7,9 milliards d'euros pour l'année 2019. Et ce qui est extraordinaire, après je m'arrête parce que je parle trop, mais 7,9 milliards, c'est le montant pour l'année du budget de la santé. C'est l'équivalent du budget de la justice. Eh bien, les 7,9 milliards qu'on met sur l'éolien ne fait même pas l'objet d'un débat au Parlement. Parce que ce sont des accords directs du gouvernement avec EDF, qui décide seul, sans que ceci ne passe par les chambres de députés ou par le Sénat. Et je me dis, quand on présente un budget pour dépenser 8 milliards au nom de l'État, parfait, on doit le justifier, c'est ce qui se fait pour la santé, pour la justice. Je rappelle, c'est les mêmes valeurs dont on parle. Eh bien là, ces 8 milliards qu'on met sur les énergies renouvelables, ça part comme de la fumée en résultats financiers pour des sociétés financières étrangères qui captent cet argent. Je crois qu'on a, et c'est ce qu'on voit absolument maintenant, je ne sais pas si nos auditeurs regardent la presse, mais que ça aille du Figaro au Monde, à des journaux, des hebdomadaires. Donc au-delà de tout clivage politique, vous trouvez de plus en plus de monde. Et chez les députés, c'est pareil, il y a une centaine de députés qui aujourd'hui disent « Arrêtons ce massacre, arrêtons cette gabegie ». Ça dépasse complètement les clivages politiques. Mais on a une sorte d'idéologie qui mène politique, qui ne n'ose plus s'interroger. Et c'est ça notre vrai combat. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, parce que c'est...
Mais justement, pour mieux comprendre encore, il faut venir samedi, ce que ce soit vraiment l'occasion d'échanger avec Marc Alévy.
Absolument, d'échanger avec Marc Alévy. Donc on va introduire un tout petit peu, de façon à ce que les gens comprennent bien ce qu'on essaye de raconter. Marc Alévy va expliquer le livre qu'il a construit. Alors c'est lui, il dira, essayons de travailler en bonne intelligence. Est-ce qu'on parle de pénurie? Où se trouvent les fragilités de ce système éolien? Enfin, des machines. Et puis, au terme de son exposé, qui va durer trois quarts d'heure, il y a un débat qui va être mené, et tout le monde peut poser ses questions. Alors qu'on soit pro ou anti, il me semble que c'est un truc extrêmement intéressant, cette conférence, parce que si vous êtes d'accord, vous allez être enrichi dans votre analyse, et si vous êtes contre, là aussi, vous allez être enrichi dans votre analyse. Donc, je pense que la transparence que nous souhaitons devrait permettre à tout un chacun de venir. Et qui plus est, on offre un verre à la sortie pour pouvoir continuer ces débats. Voilà, donc c'est samedi matin à 10h au marché couvert de Saulieu. Voilà, et plus on sera nombreux et plus nous serons réjouis, parce que ça veut dire que ces questions interrogent chacun d'entre nous. Et moi, je pense que c'est là le vrai débat.
Et bon, on va inviter donc très nombreux nos auditeurs. Moi, je vous remercie, Christophe Normier, d'avoir accepté l'invitation et nous avoir apporté ces précisions. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de conclure?
Soyez très nombreux, et la meilleure réponse, c'est celle de s'interroger devant toutes ces affirmations qui nous sont données. Et c'est pas très compliqué. Donc, venez prendre connaissance des analyses qui sont faites, et chacun se fait son opinion après. Mais je suis confiant sur la capacité intellectuelle de chacun d'entre nous et l'intelligence qui fait que quand on regarde de près, alors vraiment ça surprend.
Et donc vraiment, on n'hésite pas à prendre part à cette réunion.
Super.
Très bien. Et bien de nouveau, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est moi, un grand merci à vous.
Merci, on vous souhaite une belle journée.